Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons nos Bibles à 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Nous regardons à nouveau les versets 9 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. Maintenant, souvenez-vous que lorsque Paul écrit cet épître à Timothée, l'instruction qu'il donne ici à Timothée est pour l'Église avec laquelle il est actuellement impliqué. C'est l'Église de la ville d'Éphèse, en Asie mineure, qui serait aujourd'hui la Turquie moderne. Éphèse était une grande Église, mais elle était tombée dans l'erreur doctrinale et une vie impie. Paul a ensuite laissé Timothée dans cette ville afin qu'il travaille avec cette Église pour redresser la situation. Le chapitre 3, verset 15, identifie sa tâche, leur apprendre à se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité. L'Épître est donc une instruction à un jeune pasteur, qui a devant lui une responsabilité qui est très difficile. C'est une épître corrective à cause des erreurs qui existaient dans cette Église. Parmi les problèmes de l'Église d'Éphèse se trouvait un problème lié aux femmes. Il y avait de l'hérésie en général, il y avait de l'immoralité et de l'impureté, et cela affectait à la fois les hommes et les femmes. Mais une chose en particulier était devenue un problème tout particulier, c'est-à-dire que certaines femmes de l'Église usurpaient les rôles autoritaires des hommes et souhaitaient être les enseignants officiels de l'Église. Il y avait d'autres femmes qui venaient adorer d'une manière inappropriée. Elles étaient mal habillées pour le culte, elles avaient une attitude inappropriée pour le culte, et elles niaient avec leur comportement la profession même de leurs lèvres de connaître et d'adorer Dieu. Et donc les versets 9 à 15 corrigent cette question des femmes dans l'Église et comment elles doivent fonctionner et servir. Ce sujet est très pertinent pour notre société d'aujourd'hui. La destruction moderne du but qu'avait Dieu en créant les femmes est très tragique. Le rôle et la fonction des femmes d'aujourd'hui, par conséquent, leur conception et leur bien-être ultime dans la vie, leur signification et leur sens de la satisfaction sont continuellement attaqués et pervertis. Le plus triste, c'est que les femmes ne sont pas les gagnantes, mais les femmes en sont les victimes. On dit aux femmes d'être audacieuses, de s'affirmer, de faire face à la confrontation, d'être indépendantes. Elles sont encouragées pour être compétitives, pour prendre le leadership, pour exercer de l'autorité, pour gagner leur vie, pour atteindre le même niveau de fonction que les hommes et pour ne pas céder le pas. Et malheureusement, tragiquement, il y a des églises et des institutions évangéliques ainsi que des collèges et des séminaires qui y ont adhéré, même si la parole de Dieu est tout à fait claire en la matière. Au cours des 15 ou 20 dernières années, elles sont prêtes à rejeter tous les enseignements bibliques, à les détourner et les adapter aux nouvelles attitudes ou à abandonner des siècles de croyances chrétiennes. C'est tragique, car les femmes ne sont pas mieux servies par cette situation. Elles sont mal servies en étant mises dans un rôle que Dieu n'a jamais voulu. Et je pense à cela dans tant de domaines. Je pensais cette semaine que si je pouvais identifier une seule attitude bibliquement qui serait l'attitude suprême de toutes les autres attitudes, la plus souhaitable du point de vue de Dieu serait l'humilité, la plus belle de toutes les vertus humaines, l'humilité. Et si je devais identifier une activité comme étant la plus souhaitable, ce serait l'activité de service. En combinant les deux, je dirais que la Bible enseigne alors que l'attitude la plus grande, c'est l'humilité, que l'activité la plus grande, c'est le service, et que pour une femme, offrir un service humble, c'est prendre une longueur d'avance sur les hommes, en étant capable d'atteindre le plus haut niveau de l'intention de Dieu pour ses créatures. Ses objectifs les plus élevés se trouve dans l'humble service que Dieu lui a conçu sous la direction et la protection des hommes. Et quand cela est perverti, Le chaos se produit dans la société et dans l'Église. Il s'agit maintenant de quelque chose que nous traitons dans notre société, mais ce n'est pas quelque chose que seule notre société doit affronter. Nous revenons à 1 Timothée et nous constatons qu'ils avaient un problème similaire. Certaines femmes de cette Église étaient impures. Nous trouvons que dans le chapitre 5, certaines d'entre elles méprisaient de plus en plus le Christ. Certaines d'entre elles s'étaient tournées vers Satan. D'autres vivaient dans le plaisir. Elles sont appelées des femmes stupides, chargées de péchés et de convoitises diverses, dans 2 Timothée 3, 6. Non seulement certaines femmes vivaient d'une manière impie et impure, mais il y avait des femmes qui usurpaient le rôle des hommes dans l'Église. Elles voulaient dominer. Il y avait également des femmes qui affichaient leur forme physique et leur beauté dans le culte de l'Église, qui devenaient une distraction sévère en essayant d'éloigner les hommes de leurs propres femmes, en les séduisant. Et il y avait des questions très sérieuses à régler dans ce domaine. Et donc, dans ce passage, des versets 9 à 15, il traite des deux questions. La question des femmes qui dirigent l'Église et des femmes qui s'habillent indécemment dans l'Église, venant adorer Dieu, alors qu'elles désiraient se présenter de manière indécente pour une fin impure et égoïste. Et Timothée est alors chargé de donner un enseignement approprié à l'Église pour faire face à une telle indécence de conduite et à une telle perversion de son rôle. Maintenant que nous regardons les versets 9 à 15, il y a 6 éléments qui décrivent le dessein des femmes, 6 éléments qui parlent de la place de la femme dans l'Église. Paul parle de leur apparence, de leur attitude, de leur témoignage, de leur rôle, de leur conception et de leur contribution. Nous examinerons ces 6 éléments dans cette étude, et il nous faudra quelques semaines pour le faire. Revenons tout d'abord pour parler de leur apparition au verset 9. Paul écrit de même aux femmes, et ce qu'il veut dire par là, alors que je viens de parler de la manière dont les hommes doivent agir dans l'adoration, ils doivent prier et s'assurer qu'ils ont des mains saintes, et que leur cœur ne soit pas rempli de colère et de discorde. Et alors que j'ai parlé de la façon dont les hommes se comportent, de la même manière, je parle maintenant de la façon dont les femmes doivent se conduire. Les deux versets 8 et 9 sont des commandements. Quand il dit au verset 8, « Je veux », c'est le boulomai, c'est la volonté de commander. Ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite simplement. C'est quelque chose qu'il prescrit et qui doit arriver. Donc, son commandement aux femmes ici concerne d'abord leur apparence. Elles doivent se parer de vêtements appropriés. C'est le mot propre, donnant l'idée de ce qui convient bien au culte. Elles présentent l'idée d'être ordonnées, adaptées, à un des buts de Dieu dans la vie spirituelle de l'Église. Ces vêtements devraient refléter un cœur humble et doux. Ces vêtements devraient refléter une connaissance pour sa beauté et un effort pour honorer sa beauté, mais pas une préoccupation de soi. Il ne devrait pas être conçu pour attirer l'attention sur elle, dans un but maléfique. Chaque femme devrait concevoir ses vêtements, de manière à montrer sa piété et à diriger les personnes vers le Dieu qu'elle adore. Paul devient très spécifique à la fin du verset 9, comme nous l'avons vu dans notre dernière étude. Il est dit qu'elle ne doit pas être ornée de cheveux tressés, un mot ancien, d'or, de perles ou de vêtements coûteux. Et ici, il identifie les motifs habituels de l'extravagance à cette époque. Ce sont les marques d'une femme extravagante. C'était les caractéristiques d'une femme qui voulait se faire valoir à cette époque. Donc Paul interdit de s'habiller ainsi pour se faire valoir, pour afficher la richesse, pour stimuler le désir sexuel ou la convoitise chez quelqu'un d'autre, s'habiller pour séduire le mari de quelqu'un, pour démontrer un manque de soumission ou de soumission à son propre mari. Tout ce qui ressemble à cela profane le culte. Ces choses déshonorent Dieu. Premièrement, nous avons vu quand nous avons regardé ce verset que la femme chrétienne doit se parer d'une manière qui attire l'attention sur son caractère et non sur sa richesse, à sa vertu, non pas à sa forme physique, à son humilité, non pas à sa fierté, à son intention pieuse dans le culte, pas à sa mauvaise intention. Elles doivent attirer l'attention par la façon dont elles s'habillent au Dieu qu'elles adorent. Tout d'abord, nous avons traité de leur apparence. Deuxièmement, leur attitude, au verset 9. Au milieu du verset, il dit que l'attitude de cette femme doit être deux choses, la peur divine et la maîtrise de soi. Ces deux phrases se combinent pour exprimer l'attitude sous-jacente du cœur, qui est la véritable parure de la femme. Tout d'abord, La crainte pieuse a l'idée de modestie mêlée d'humilité. L'idée de base du mot est un sentiment de honte. Non pas qu'elle ait honte d'être une femme, ce n'est pas parce qu'elle a honte d'être belle, mais plutôt, elle a honte de provoquer des pensées diaboliques ou de créer une distraction dans le culte. Elle aurait honte de faire quelque chose comme cela. Elle doit alors être parée, dans le vrai sens, d'une réserve appropriée, de manière à ce que les personnes ne soient pas distraites par elle en la présence de Dieu. Troisièmement, elle doit être marquée par la maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'elle doit témoigner par sa parure et son attitude qu'elle contrôle ses passions et ses désirs. Elle doit maintenir le délicat équilibre entre remercier Dieu pour sa beauté et préserver une attitude d'humilité, une attitude de piété et une attitude de maîtrise de soi, une façon de ne pas attirer l'attention sur elle, mais seulement sur le fait qu'elle aime et adore Dieu. Ainsi, sa véritable parure, c'est son caractère, et il devrait se manifester de manière à être renforcé extérieurement. Maintenant, cela nous amène à notre troisième point, là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, au sujet de leur témoignage, au verset 10. Paul est très préoccupé par la cohérence du témoignage d'une femme. Il est essentiel, dit-il au verset 10, que les femmes qui professent la piété soutiennent cette profession par leur conduite. Regardez ce que cela dit, plutôt ce que nous avons vu à la fin du verset 9. Elle doit être ornée de bonnes œuvres, puis entre parenthèses, il dit « ce qui convient aux femmes professant la piété ». Le point ici, c'est une femme qui montre de la piété. C'est une idée majeure, c'est son témoignage. Le mot « professer » est un mot qui signifie « communiquer fortement ». Cela signifie « faire une annonce publique ». Et ce qu'il dit, c'est que toute femme qui a fait une annonce publique de son engagement envers le Seigneur, si elle a professé la piété, si elle a professé d'être dévouée à Dieu et adorer Dieu, alors elle doit se comporter de manière à être cohérente dans son attitude, sa parure et son activité, aussi bien qu'avec cette profession. Cela semble plutôt évident. Le mot « divinité » Theosa Beia, est un mot très direct, qui contient le nom de Dieu, le mot pour Dieu. Cela signifie essentiellement la révérence envers Dieu. Lorsque vous prétendez être chrétien, vous prétendez révérer Dieu. Lorsque vous prétendez être chrétien, vous prétendez adorer Dieu, honorer Dieu, adorer Dieu pour servir Dieu. Et toute femme qui prétend servir, aimer, adorer et honorer Dieu doit se conduire de telle manière que ses bonnes œuvres soutiennent cette profession. Puis-je faire une digression à ce moment précis? Je pense qu'il y a là un problème majeur dans le mouvement de la libération de la femme contemporaine dans l'Église. Il y a des femmes qui veulent prêcher, enseigner et prendre autorité. Elles veulent devenir des prédicateurs dans l'Église. Elles veulent être reconnues à égalité avec les hommes. Elles veulent être nommées comme anciens. Je connais très bien un séminaire évangélique où j'ai prêché au cours des années passées et où la femme prêche maintenant dans la chapelle, car ils ont réinterprété ce passage et pensent que cela peut-être quelque peu modifié pour répondre au désir contemporain de la femme qui veut s'exprimer de ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Alors ils ont des prédicateurs féminins dans leur chapelle. Le problème, c'est qu'une femme qui professe la divinité et une femme qui vénère Dieu devraient, par ses bonnes œuvres, intrinsèquement, véritablement et profondément bonnes, le mot « agathos », montrer cette dévotion à Dieu. Et c'est le cas pour toute femme qui dit vouloir servir Dieu. Je veux honorer Dieu. Je veux montrer mon amour et mon respect pour Dieu, pour qu'il ne puisse pas dire que je veux violer ce qu'il dit, ou bien je veux changer ce que Dieu dit. Ces deux choses sont mutuellement exclusives. Et alors, quand je vois une femme qui veut sortir du plan conçu par Dieu pour elle dans l'Église afin de servir Dieu, je ne vois rien de plus qu'une contradiction. Et si une femme professe la piété, alors elle conduira son attitude dans sa parure et dans son activité d'une manière qui soit compatible avec cette profession. Et laissez-moi dire à ce stade que la Bible est si claire à ce sujet qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de débats. Au risque de paraître quelque peu simpliste dans un débat qui fait rage, je tiens à vous dire que de tout cœur, je pense que ce passage est absolument clair dans les Écritures, et je ne sais pas comment quiconque, ayant l'esprit ouvert, pourrait lire la parole et conclure n'importe quoi, sauf qu'il n'est pas diligent ou partial de ce que la parole de Dieu dit sur le rôle d'une femme. Ce passage est si clair qu'il n'y a pas de discussion du tout. Ainsi, le témoignage d'une femme qui professe alors la piété devrait mener une vie de bonnes œuvres, c'est-à-dire des activités justes, qui démontrent que c'est en fait une profession légitime et fidèle. Maintenant, cela revient à la façon dont vous vous comportez dans l'Église. Si vous professez un respect pour Dieu, alors votre désir à venir adorer devrait en tenir compte. Vous devriez avoir une crainte divine et un sentiment de maîtrise de soi. Si vous respectez Dieu et que vous adorez Dieu, vous devriez venir orner de telle manière et vous vêtir de telle manière afin de parler de cette profession en attirant l'attention sur Dieu et non sur vous-même. Et si vous adorez et honorez Dieu, vous devriez mener vos activités quotidiennes et activités spirituelles de manière à soutenir cette affirmation, car elles sont bibliques et fidèles à la conception de Dieu pour vous. Maintenant, parlons de la question de votre témoignage. Démontrez votre prétention à être fidèle à la conduite de votre vie. Et cela nous amène au quatrième point. Le troisième était très bref. Nous regarderons le quatrième cette fois et la prochaine fois parce que c'est très important. Cela nous amène au rôle de la femme. Nous avons vu leur apparence, leur attitude, leur témoignage. Paul veut maintenant parler de leur rôle dans l'Église, et c'est vraiment une compréhension très essentielle. Maintenant, je sais que lorsque j'aurai terminé ce matin, certains d'entre vous vont avoir des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse et auxquelles je m'attends, parce que nous n'avons pas encore vu tout le passage. C'est un cas où, si vous ne comprenez qu'un des messages, vous allez vraiment avoir des difficultés, parce que nous allons commencer avec les versets 11 et 12, mais nous devons commencer à ce point. La première chose que Paul dit au verset 11, et là où nous passerons notre temps ce matin, concerne l'enseignement aux femmes. Maintenant, je vais m'arrêter un moment à ce stade. Laissez les femmes apprendre. La première chose qu'il dit à propos du rôle d'une femme dans l'Église, c'est qu'elle doit apprendre. Le verbe est mentano, c'est un impératif actif présent, ce qui signifie qu'il s'agit d'un commandement. C'est de là que vient le mot « disciple ». Que les femmes soient des disciples. En d'autres termes, enseigner les femmes, c'est un commandement. Enseigner les femmes, laissez-les participer au processus d'apprentissage. Maintenant, cela indique plusieurs choses, et je ne veux pas aller trop loin en ce qui concerne le rôle des femmes, mais j'aimerais ajouter une petite note, le fait qu'il parle de l'ordre de l'Église et comment l'Église se conduit, comme indiqué au chapitre 3, 15. Le fait que cette section comprend le rassemblement de l'Église vous amène également à comprendre que lorsque l'Église se réunit, elle célèbre un culte pour apprendre. Le fait que Paul dit « Laissez les femmes apprendre » indique que l'apprentissage a eu lieu quand l'Église se réunissait. Nous ne devrions pas être surpris par cela, et nous ne le sommes peut-être pas, car dans Acte 2, il est dit que lorsque l'Église se rencontrait, elle se réunissait pour écouter la doctrine des apôtres. Mais permettez-moi de dire que l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui doivent se rassembler pour apprendre, et quand quelqu'un critique une église comme la nôtre ou d'autres églises parce qu'il y a beaucoup de temps et d'efforts donnés pour le contenu de l'enseignement et qu'ils disent que ce n'est pas un culte, ils ont tort dans leur interprétation du Nouveau Testament. L'église primitive s'est engagée lorsqu'elle se réunissait pour le culte, pour le repas du Seigneur et la prière dans la diffusion de la doctrine des apôtres, de sorte que le domaine de l'apprentissage était une grande priorité. Et quand l'Église se réunit, Paul dit « Laissez les femmes apprendre. Ne les envoyez pas préparer le repas pour ce qui va se passer après. Ne les envoyez pas toutes dans la garderie ou à l'extérieur pour préparer des activités. Laissez les femmes apprendre. Elles devraient être incluses dans l'apprentissage. » Maintenant, vous dites « N'est-ce pas évident ? » C'est peut-être évident pour nous, mais apparemment cela n'était pas évident pour eux. Comment se fait-il que ce ne soit pas évident ? L'une des choses que nous avons apprises au chapitre 1 était que dans l'église d'Éphèse, il existait à cette époque des Juifs qui conservaient leur judaïsme. Ils faisaient des recherches dans les généalogies et les fables. Cela est mentionné dans le chapitre 1, verset 4. Le chapitre 1, verset 7, parle du fait qu'ils étaient des enseignants de la loi, qu'ils voulaient être des rabbins. Il y a peu de doute dans l'esprit de celui qui étudie 1 Timothée qu'il y avait un élément dans l'église d'Éphèse qui encourageait une mentalité judéite à l'Église. Et une partie de la tradition juive contemporaine de cette époque était de considérer les femmes comme étant inférieures. La tradition juive à l'époque de notre Seigneur et le temps de Paul avait mis les femmes dans une position discrète. La mentalité serait essentiellement de les garder ignorantes, pieds nus et enceintes, ce genre de choses. Les hommes juifs, franchement, ne pensaient pas que les femmes faisait nécessairement partie du processus d'apprentissage. On ne leur interdisait pas de venir à la synagogue. Elles venaient. C'était sans importance. Elles apprenaient que c'était sans importance si elles venaient. Les traditions ne les obligeaient pas à assister aux fêtes. Elles n'étaient pas obligées d'assister au festival. Et la plupart des rabbins refusaient, rencontrant une femme, de la saluer. Les rabbins ne voulaient pas perdre leur temps en instruisant une femme. Certains des rabbins disaient que l'enseignement aux femmes, c'est comme jeter des perles aux cochons. De sorte que le rôle de la femme, en tant qu'étudiante, en matière de spiritualité, était très décevant. Elle n'avait pas vraiment de place significative du tout. Elle pouvait écouter, mais cela importait peu qu'elles écoutent ou qu'elles apprennent quelque chose. Maintenant, vous pouvez comprendre que ce genre de choses existait dans l'Église primitive, quand le judaïsme, avec sa mentalité, a empiété sur cela. Et ce qui se passe dans cette situation à Éphèse, c'est qu'il y a une certaine répression des femmes. Il y avait des représailles à cela, bien sûr. Il y avait des femmes qui étaient vraiment contrariées par ce genre de choses, et elles étaient déterminées à atteindre le niveau de leadership. Et certaines d'entre elles, selon le chapitre 2, verset 12, enseignaient et prenaient autorité sur les hommes, et Paul doit leur dire d'arrêter. Elles réagissaient à leur suppression en cherchant une position dominante. Elles prenaient ce rôle agressif qui ne leur convenait pas, tout comme elles le font aujourd'hui, et elles devaient être corrigées. Mais avant que Paul n'entre dans les détails, il commence par corriger le problème du droit des femmes d'apprendre. En fait, il ordonne que les femmes soient accueillies et qu'elles aient le droit d'apprendre. Les femmes doivent être enseignées, elles doivent être disciplinées, elles doivent apprendre la volonté de Dieu. C'est essentiel à leur vie spirituelle et à leur rôle dans le plan de Dieu. Et ici nous trouvons dans cette brève déclaration de quatre mots « Laissez les femmes apprendre », ce qui en fait deux mots, avec le mot pour femme et ensuite le verbe en grec. On y trouve l'égalité des sexes dans la vie spirituelle et la bénédiction. Et c'est ce que je veux que vous voyez tout de suite au début de cette étude. En termes de vie spirituelle et de bénédiction, les hommes et les femmes jouissent de l'égalité. Maintenant, ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament. C'était vrai dans l'Ancien Testament. Et je veux prendre un peu de temps pour vous le signaler. En dépit de la tradition juive, l'Ancien Testament n'enseignait pas la répression des femmes en matière spirituelle. C'était une tradition non biblique. La femme de l'Ancien Testament était élevée aux côtés des hommes dans une position égale de vie spirituelle et de bénédiction. Par exemple, dans Exode 19 et 20, Dieu a donné la loi. Vous n'avez pas besoin de chercher, mais juste de vous en souvenir. Dans Exode 19 et 20, Dieu a donné la loi, les 10 commandements, et il a donné ces commandements aux hommes et aux femmes. Il a promis aux hommes et aux femmes que ceux qui obéiraient seraient bénis, et que ceux qui désobéiraient seraient punis ou maudits, et que les hommes et les femmes étaient égaux, car cela était établi par Dieu, dès le commencement, que les hommes et les femmes sont responsables de leur vie spirituelle et de leur obéissance devant Dieu. Dans Deutéronome 6, où vous avez le Shama, le Seigneur notre Dieu est un, le Seigneur est un. Et alors, vous avez le commandement que vous devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Ce n'est pas réservé aux hommes, mais aux hommes et aux femmes. Et les familles devaient en parler tout le temps, l'enseigner à leurs enfants, pour que les hommes et les femmes fassent appel au décalogue externe d'Exode 19 et 20 et à l'attitude interne d'amour envers Dieu. Il n'y avait pas de différence dans ces domaines. Dans Exode 12, quand Dieu a ordonné la Pâque, la plus grande célébration du calendrier de l'année pour les Juifs, cette grande célébration du pouvoir rédempteur de Dieu en les délivrant d'Égypte, était pour les hommes et les femmes. Tous deux devaient être impliqués, non seulement dans un comportement de chrétien ou de responsable biblique, mais aussi dans une obéissance responsable. Mais ils pouvaient également participer aux fêtes de louange et d'adoration du peuple, hommes et femmes. En outre, il est intéressant de noter que tout au long de l'Ancien Testament, les peines infligées pour le péché ont été accordées également à toutes les personnes, hommes ou femmes. Je lisais l'un d'entre eux ce matin dans l'Exode, chapitre 21, versets 28 à 31, où il est question de ce que vous faites à un bœuf qui éventre un homme ou une femme, que ce soit un valet de chambre ou une servante, un frère ou une sœur. Cette position de l'animal, cette affaire sous la loi de Dieu, était la même. En d'autres termes, Dieu accordait une valeur égale à la vie d'un homme et à la vie d'une femme, et la punition de l'animal qui le faisait était la même dans les deux cas. Donc, il y avait une qualité spirituelle, une responsabilité spirituelle d'obéir à la loi. Ils avaient l'égalité au niveau de l'adoration, de la louange, et pour les grandes convocations d'Israël, et ils étaient vraiment égaux en termes de valeur de la vie, comme indiqué dans les phrases et les peines infligées contre les péchés à leur encontre. Il est également très intéressant pour moi que, dans l'Ancien Testament, le plus grand vœu spirituel, connu sous le nom de vœu nassérien, est un vœu de séparation. Ce plus grand vœu nassérien est un vœu de séparation du monde. C'est un vœu de dévotion à Dieu qui coupe une personne du monde qui l'entoure. Ils ont fait un pas de géant, de consécration totale à Dieu. Ce vœu nassérien n'appartenait pas seulement aux hommes, bien que nous connaissons surtout les hommes qui faisaient ce vœu, mais aussi des femmes. Écoutez Nombre 6:2. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur que, quand un homme ou une femme se sépare pour faire un vœu de nassérien, en se séparant du Seigneur, ils continuent à décrire ce qu'ils font. Une femme pouvait faire un vœu nassérien comme un homme pouvait le faire. Les niveaux élevés d'engagement spirituel n'étaient en aucune façon limités aux hommes. Il y avait de l'égalité en termes de vie spirituelle et de responsabilité. De plus, dans le chapitre 6, verset 20 des Proverbes, un verset très intéressant indique que la connaissance de la loi de Dieu et la responsabilité d'enseigner cette loi au sein de la famille était égale entre les sexes. Proverbe 6:20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'hypothèse, c'est que le père et la mère avaient tous deux connu la loi de Dieu, et quand ils ont ordonné à leurs enfants de faire les choses, ils reflétaient à leurs enfants la vérité de Dieu. Les deux sexes étaient alors responsables d'enseigner la loi de Dieu, ce qui signifie qu'ils devaient connaître la loi de Dieu. En résumé, nous avons réalisé que lorsque Dieu avait ordonné un homme et une femme, il leur avait accordé les mêmes privilèges et responsabilités spirituelles. Ils étaient responsables d'obéir à sa loi. Ils étaient tous les deux responsables de l'aimer du fond du cœur. Ils étaient responsables de le louer et de l'adorer. Leur vie avait la même valeur. Ils étaient également capables, l'un ou l'autre, de prononcer le vœu de consécration absolue et totale à Dieu, le niveau suprême d'engagement étant à la disposition de chacun d'eux. Et ils étaient tous deux responsables de la loi, pour pouvoir la transmettre à la génération suivante. De plus, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il existe une égalité entre les sexes en ce qui concerne la relation de Dieu avec la femme. Dieu n'a pas évité de traiter directement avec les femmes. Il ne passait pas par les hommes chaque fois qu'il voulait communiquer avec une femme. Il a eu des apparitions très intimes, très personnelles, très glorieuses et miraculeuses avec des femmes. Par exemple, dans Genèse 3:13 et les suivants, il est apparu à Ève. Dans Genèse 16, verset 8 et suivants, il est apparu personnellement à Agar. Dans Genèse 18, versets 9 à 15, il apparaît personnellement à Sarah, la femme d'Abraham. Et dans Juges 13:3, il apparaît à la mère de Samson. Dieu a eu un contact intime personnel avec une femme. En outre, nous voyons la qualité des sexes, dans le fait que les hommes et les femmes ont tous deux servi Dieu de manière très particulière. Un chœur est décrit dans Néhémie 7:67, composé de 245 hommes et femmes. Ils ont ensuite participé au culte du temple. Ils menaient le temple dans la louange à travers la musique. Dans le ministère du tabernacle également, dans Exode 38:8, il est dit qu'il y avait des femmes qui servaient à la porte. Maintenant, nous ne savons pas ce qu'elles faisaient, qu'il s'agisse d'un comité d'accueil ou d'une équipe de nettoyage. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elles faisaient, si elles prenaient des femmes à part qui venaient pour adorer et leur donnaient des instructions. Peut-être servaient-elles des femmes dans le besoin, mais elles servaient les desseins de Dieu dans le tabernacle. Vous pouvez lire Deutéronome 12, 10 à 12. Vous pouvez lire 2 Samuel 6. Vous pouvez lire 1 Samuel 1 et de nombreuses autres écritures. Et vous pouvez constater que les femmes ont partagé les grandes convocations nationales d'Israël, et cela par la conception de Dieu. Nous voyons alors qu'elles ont une responsabilité spirituelle égale en termes de leur propre vie spirituelle. Elles avaient la possibilité de servir dans le cadre de la conception de Dieu pour le peuple. Dieu leur est personnellement, intimement apparu. Elles avaient un ministère. Elles ont donc servi Dieu dans l'Ancien Testament, dans une dimension spirituelle, aux côtés des hommes. Maintenant, laissez-moi m'empresser d'ajouter ceci, et écouter attentivement. Cela ne signifie pas qu'elles ont le même rôle que les hommes, et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Lorsque nous disons qu'une femme a un rôle différent d'un homme dans la société et dans l'Église, nous ne diminuons en rien sa spiritualité. Il y a beaucoup de rôles dans la société, il y a beaucoup de fonctions dans la société, et un grand trait distinctif entre toutes ces fonctions est la différence entre l'homme et la femme. Quiconque, avec une mentalité quelconque, le sait. Je veux dire, vous pouvez parler d'égalité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à qui parler, et vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser cette égalité. Mais aucun homme ne produira et ne donnera naissance à un bébé. De toute évidence, pour les intellectuels les plus limités, les hommes et les femmes ont un rôle différent. Je veux dire, c'est évident. Mais de dire qu'ils ont un rôle différent ne les déprécie pas et ne diminue en rien leur spiritualité. Mais pensez au rôle pendant une minute dans l'Ancien Testament. Et parlons de cet aspect. Il n'y a pas de femme dans la liste des rois d'Israël, et il n'y a pas de femme dans la liste des rois de Juda. Il n'y en a pas. Il me semble qu'il s'agit d'une déclaration assez importante sur le leadership. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femme prêtre dans tout l'Ancien Testament. Aucune. Aucune femme n'a écrit un livre ou une partie d'un livre dans l'Ancien Testament. Aucun des 39 livres, aucun d'entre eux, ni même une partie de l'un d'eux, n'a été écrite par une femme. Bien que deux d'entre eux portent le nom de femmes, Ruth et Esther, ils n'ont pas été écrits par des femmes. Il n'y a pas de femme dans tout l'Ancien Testament qui ait un ministère prophétique. Cela me fascine aussi. Il n'y a pas de femme qui ait un ministère prophétique, qui se retrouve parmi les prophètes mineurs ou les prophètes majeurs, ou qui se tient aux côtés d'Élie, d'Élisée, ou de tout autre grand enseignant ou chef de l'Ancien Testament, avec un ministère permanent. Aujourd'hui, certaines personnes veulent défendre la cause des femmes prédicateurs, en disant qu'il y a plusieurs femmes prophétesses mentionnées dans l'Ancien Testament. C'est exact. Il y en a 5. Et j'aimerais que vous les écoutiez attentivement lorsque je vous les décrirai. La première femme inscrite comme prophétesse est Myriam. Myriam est appelée une prophétesse dans Exode 15-20. Myriam est la sœur de Moïse. Elle est appelée une prophétesse parce que, et seulement parce que, elle a une fois conduit les femmes d'Israël dans un grand hymne de louange avec le tambourin et la danse, où Dieu lui a donné une révélation très brève. Mais à cette époque, elle était un porte-parole de Dieu. Dieu a choisi de parler à ses femmes lors de ce moment de louange, à travers elle. Nous ne connaissons aucune autre occasion où elle agit de manière prophétique, et elle n'avait pas de ministère prophétique. Le mot prophète ou prophétesse signifie parler. De toute évidence, en faisant référence à la parole de Dieu à cette occasion, elle a fait cela, mais elle n'avait pas un ministère prophétique. La deuxième des 5 femmes appelées prophétesses est une femme nommée Déborah, qui apparaît comme un instrument unique de Dieu dans Juges. Chapitre 4, au verset 4, elle est donc appelée prophétesse uniquement parce qu'elle a été utilisée par Dieu pour donner une révélation directe de Dieu à un homme nommé Barak. Elle a donné cette révélation directe à cette occasion unique pendant la bataille, et, à ce moment-là, elle était une prophétesse. Elle parlait au nom de Dieu. Dieu l'a utilisée à ce moment-là pour donner ce message à un individu. Myriam a donné sa prophétie aux femmes, et Déborah a prophétisé essentiellement à un homme. Mais encore une fois, nous ne connaissons aucune autre occasion où elle s'est engagée dans une œuvre prophétique. La troisième femme mentionnée et appelée prophétesse est Hulda. Elle est mentionnée dans 2 Rois 22, 14 et suivant, et 2 Chroniques 34, 22 et suivant. Ce sont des passages parallèles. Elle est appelée prophétesse uniquement parce que Dieu lui a donné une révélation, tout comme Déborah, qui devait parler au sacrificateur Hilkia au sujet du jugement à venir sur Jérusalem et Juda. Dieu a parlé à travers elle à cette occasion. Nous ne connaissons aucune autre occasion de ce genre. Personne d'autre n'a écrit à son sujet, et nous ne connaissons aucun ministère prophétique. La quatrième femme, appelée prophétesse, est une femme nommée Noadia, et elle est mentionnée dans Néhémie 6, 14, et est appelée une fausse prophétesse. Nous l'éliminons donc. Elle était antagoniste contre la reconstruction des murs de Jérusalem, et aurait été un allié de Sanballat, Tobia, et des ennemis qui tentaient d'empêcher les Juifs de reconstruire leur ville. C'était une fausse prophétesse. Et il y a eu beaucoup de fausses prophétesses féminines. La cinquième mentionnée est l'épouse d'Ésaïe. Et dans Ésaïe chapitre 8, verset 3, sa femme est appelée une prophétesse. Seulement, parce qu'elle a donné naissance à un enfant dont le nom avait un sens prophétique. Elle n'a jamais dit de prophétie. Elle a simplement donné naissance à un enfant dont le nom avait un sens prophétique. Et elle est appelée prophétesse uniquement dans ce sens. Maintenant, vous pouvez voir à partir de cette situation de l'épouse d'Ésaïe que le mot prophétesse a été utilisé d'une manière quelque peu générale. Donc, 5 femmes sont mentionnées. L'une est une prophétesse simplement parce qu'elle a donné naissance à un enfant dont le nom a un sens prophétique. Une autre est une fausse prophétesse. Et 3 autres sont appelées prophétesses car elles ont parlé une fois au nom de Dieu. Mais il y a encore une fois aucun ministère prophétique d'une femme dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Nous apprenons beaucoup sur la conception de Dieu pour le rôle de l'homme et des femmes. Sans femme roi, femme prêtre, ni femme auteur des Écritures, et sans femme prophète. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de déprécier de quelque manière que ce soit la capacité spirituelle de la femme. Nous parlons de son rôle, et nous allons compléter cela tout au long du message. Aucune femme dans l'Ancien Testament n'est vue dans un rôle permanent de leadership sous l'autorité et le plan de Dieu, ou dans un ministère public de prédication ou d'enseignement, mais les femmes étaient utilisées par Dieu dans de nombreux domaines. Maintenant, nous arrivons au Nouveau Testament. Écoutez ce que je vous montre dans le Nouveau Testament, qui est parallèle à cela. La même égalité de bénédiction et de privilège se trouve dans le Nouveau Testament. La même chose est là. Allons au chapitre 3 de Galates. Et c'est le passage qui semble créer la controverse. Galates 3, 28. Et c'est ici que les personnes qui prétendent l'ordination des femmes, les femmes plus âgées, les femmes prédicateurs et tout cela, c'est là où ils aiment aller. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Maintenant, c'est assez simple. Je n'ai pas de problème avec cela, et vous non plus. Personne ne devrait vraiment en avoir un. Tout ce que cela dit, c'est que nous sommes tous un en Christ. Mais dans quel sens? En quel sens sommes-nous tous un en Christ? Vous devez lire le contexte pour savoir de quoi il parle. Donc, vous revenez un peu en arrière, et vous découvrez qu'il parle du salut. Vous commencez, par exemple, au verset 13. « Christ nous a rachetés. » Et il parle un peu de rédemption. Vous pourriez revenir au verset 22. « Les Écritures ont mis tout le monde sous le péché. » Et ensuite, la promesse par la foi de Jésus-Christ est donnée à ceux qui croient. Et bien sûr, c'est une autre façon de voir le salut. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi à la fin du verset 24, c'est-à-dire que nous sommes justes devant Dieu par notre foi. Au verset 26, nous sommes tous des fils de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Nous avons tous été baptisés en Christ. Nous avons revêtu le Christ. Donc, l'égalité et l'unité dont il parle, écoutez attentivement, c'est que nous sommes tous un dans le sens du salut. Vous voyez cela. Il n'y a rien à voir avec le rôle d'une femme ou d'un homme. Nous sommes tous un en Christ. Le fait est que tout le monde peut venir à Christ. Peu importe que vous soyez juif ou païen. Peu importe que vous soyez un esclave ou un homme libre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez tous recevoir la vie éternelle en Christ. N'est-ce pas là l'intention évidente du passage? Bien sûr, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des descendants d'Abraham, c'est-à-dire que nous sommes connectés à Abraham, qui est en quelque sorte le père de ceux qui ont la foi. Nous sommes tous des héritiers, verset 6 du chapitre 4. Nous sommes tous des fils. Nous possédons tous le Saint-Esprit. Tout le passage, avant et après, parle de la merveilleuse réalité du salut en Christ, qui est accessible à tous, juifs, païens, esclaves, libres, hommes ou femmes. Cela n'a rien à voir avec le rôle des femmes dans l'Église, et cela ne signifie certainement pas que lorsque vous devenez chrétien, tout est effacé. Je veux dire, prêchons-nous que lorsqu'un juif devient chrétien, il cesse d'être un juif? Ou si vous êtes esclave et que vous devenez chrétien, vous n'êtes plus esclave? Ou que si vous êtes libre et que vous devenez chrétien, vous n'êtes plus libre? Non, peu importe ce que vous êtes un juif chrétien ou un païen chrétien. Vous êtes un chrétien libre ou un esclave chrétien. Vous êtes un chrétien ou une chrétienne. Vous ne cessez pas d'être un homme ou une femme. Non, ces distinctions sont évidemment maintenues. C'est donc une déformation ridicule des Écritures d'essayer de prendre ce passage et de défendre que les rôles sont égaux quand on ne parle pas des mêmes rôles. Ils ne parlent que de la vie spirituelle disponible par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute qu'il y a une égalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Tous les commandements du Nouveau Testament, toutes les promesses spirituelles du Nouveau Testament, toutes les bénédictions du Nouveau Testament, toute la responsabilité spirituelle du Nouveau Testament, en termes de notre mode de vie et de ce que Dieu fera en réponse, sont enjoints aux hommes et aux femmes. Cela n'est pas réservé aux hommes seulement, mais pour les hommes et les femmes, nous avons tous les mêmes ressources spirituelles, les mêmes promesses spirituelles, les mêmes responsabilités spirituelles. Et je ne vais même pas prendre le temps de parcourir tout le Nouveau Testament et de vous l'expliquer. Tout ce que vous lisez est destiné aux hommes et aux femmes. Jamais cette distinction n'a été établie en termes de responsabilité spirituelle, de bénédiction ou de capacité, mais bien qu'il y ait encore égalité, comme dans l'Ancien Testament, dans les devoirs spirituels et les bénédictions spirituelles, il y a encore une différence dans les rôles. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prédicateur féminin, aucune. Il n'y a pas d'enseignante, aucune femme parmi les anciens, aucune femme évangéliste, aucune femme n'a écrit l'un des 27 livres dans le Nouveau Testament. Tous les 66 livres sont écrits par des hommes, et le Nouveau Testament est conforme au plan de Dieu pour les femmes, tel que révélé dans l'Ancien. Aucune femme n'est évangéliste, aucune femme n'est prédicatrice, enseignante, aucune femme pasteur d'une congrégation, aucune femme ne joue le rôle d'un ancien. Le texte de tout le Nouveau Testament ne contient aucun serment délivré par une femme ou un enseignement donné par une femme, aucun. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des évangélistes. Alors les femmes viendront et diront, « Mais qu'en est-il des quatre filles de Philippe dans Actes 21, 9 ?» Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Il ne dit pas qu'elles étaient des prophètes. Il ne dit pas qu'elles étaient évangélistes. Il ne dit pas qu'elles étaient missionnaires. Il ne dit pas qu'elles étaient des anciens. Il ne dit pas qu'elles étaient des enseignantes ou des pasteurs. Il dit qu'elles ont prophétisé. Quelque temps, quelque part, comme Déborah ou Myriam, par la conception de Dieu et le but sacré de Dieu. Ils ont donné un mot de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi ou comment. Nous ne savons pas si elles ont parlé à l'unisson comme un quatuor ou si elles ont parlé indépendamment les unes des autres. Nous savons simplement qu'il y a eu un temps et un lieu où Dieu a parlé à travers elles. Écoutez, Marie, la mère du Seigneur Jésus elle-même, a parlé prophétiquement quand elle a reçu de la parole de Dieu lui-même la réponse. Vous vous souvenez, en présence d'Élisabeth, elle a répondu ce qu'on appelle son Magnificat, sa gloire à Dieu. Elle donne un énoncé qui est une inspiration divine. En ce sens, Marie a prophétisé, elle a parlé, ce que signifie le mot prophétiser. J'ai parlé de la parole de Dieu, et je suis sûr qu'il y a eu de nombreuses occasions où d'autres femmes ont parlé par la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, 5, il est même dit qu'une femme qui prie ou prophétise devrait avoir la tête couverte. Il y avait des moments et des lieux où les femmes pouvaient prier et parler par la parole de Dieu. Il est dit dans Actes 2, 17 que plus tard, citant Joël, les femmes prophétiseront. Il dit que vos filles prophétiseront. Vos jeunes hommes rêveront des rêves et vos filles prophétiseront. Les mots signifient simplement parler. Il y a des moments et des lieux où les femmes partagent la parole de Dieu. J'espère que toutes les femmes de cette Église le font. Mais cela diffère nettement de celui d'être identifié en tant que pasteur, enseignant, ancien, évangéliste, apôtre. Il n'y a pas de femme apôtre. Il n'y a pas de femme apôtre. Il n'y a pas de femme pasteur, d'évangéliste, etc. Il faut le noter, et aucune femme n'a écrit une partie des Écritures du Nouveau Testament. Elles ont des rôles différents. Est-ce que cela signifie qu'elles étaient spirituellement inadéquates? Pas du tout. Nous allons y arriver. Mais vous vous rendez compte que les hommes sont dans la plupart des cas le produit des femmes. Non seulement physiquement en ce sens, ils sont tous des produits de femmes, mais en termes de développement de leur caractère, ils sont très fortement influencés par les femmes. Timothée, qui a appris au pied de sa mère et de sa grand-mère, est lui-même un produit d'une femme qui a appris la parole de Dieu et qui l'a exprimée. Mais c'est très différent de prendre le rôle destiné aux hommes dans l'Église. Permettez-moi maintenant de parler un peu plus de l'égalité des sexes afin que cela ne vous trompe pas. En aucun cas, une femme fait partie de la deuxième classe dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus a d'abord conduit une femme à la connaissance de lui-même dans Jean 4. La première personne à laquelle il a partagé le fait qu'il était le Messie, c'était à une femme. Pas seulement une femme, mais une mauvaise femme qui avait eu une poignée de mari et vivait dans l'adultère. C'est à cette femme de Samarie qu'il a rencontré au puits de Sichar qu'il a apporté la merveilleuse vérité de qui il était, et je crois que cela lui a apporté le salut. Dans Luc 13 et Marc 5, Jésus guérissait une femme. Il avait autant de compassion pour elle que pour les hommes. Il était tout aussi soucieux de les guérir que les hommes. Jésus a enseigné aux femmes, car Luc 10, 38 à 42 le montre dans ce rôle d'enseignant envers les femmes. Il était pris en charge personnellement. Il est dit dans Luc 8, verset 3, que tout un groupe de femmes l'entouraient et offraient leurs soins, leur soutien et leur subsistance. Je ne sais pas quel était leur ministère. Peut-être ont-elles fourni la nourriture et le logement, et peut-être elles réparaient des vêtements. Peut-être sont-elles allées prier, mais la bande de disciples itinérantes qui suivaient Jésus se composait des disciples et tout un groupe de femmes. Mais à aucun moment ces femmes ne prêchent ni n'enseignent. Elles avaient un rôle à jouer, mais ce rôle était distinct de celui du Christ et des douze. Dans Jean, quand une femme pécheresse a été traînée devant Jésus, il l'a défendue, il a pardonné ses péchés, il l'a aimée, il a châtié ceux qui l'ont condamnée, sans se condamner eux-mêmes pour le même péché. Jésus a appelé la femme à la plus haute priorité dans la vie, et c'était à l'obéissance. Il a appelé les femmes à être obéissantes. Luc 11, 28 en est une illustration. Quand Jésus est ressuscité, à qui est-il apparu pour la première fois? Un homme ou une femme? Il est d'abord apparu à une femme, et Jésus a demandé à ce que les femmes soient évangélisées. Il a dit « Va dans le monde entier » Marc 16, 50 et prêche l'Évangile à toutes les créatures, y compris les femmes. Dans 1 Pierre 3, il est dit que oui, les femmes sont le vaisseau le plus faible. C'est par la conception de Dieu physiquement, elles sont plus faibles, bien sûr. Les hommes doivent être leurs protecteurs, et doivent être leur force. Mais il dit même, comme le vaisseau le plus faible, vous êtes tous les deux héritiers de la grâce de la vie. Quand il s'agit d'hériter la grâce de Dieu, vous l'héritez ensemble. Le fruit de l'esprit de Galates 5 est pour les hommes et les femmes. La bénédiction de l'obéissance est pour les hommes et les femmes. Et quand Paul liste dans Romains 16 toutes les personnes qui l'ont aidé dans son ministère, la liste est remplie de femmes. Vous voyez, bien-aimés, les femmes occupent une place très importante dans l'économie de Dieu. Et elles sont à égalité avec les hommes en termes de vie spirituelle, mais pas dans leur rôle. Maintenant, c'est pourquoi il dit, et regardons notre texte, laissez les femmes apprendre. Elles doivent apprendre. Pourquoi? Comment peuvent-elles en parler à leurs enfants? Comment peuvent-elles donner des conseils aux autres? Comment pourraient-elles être utilisées pour amener les personnes à Christ? Comment pourraient-elles vivre docilement à la gloire de Dieu? Comment peuvent-elles être bénies autrement? Comment peuvent-elles être enrichies autrement? Laissez les femmes apprendre. Cela ne va pas faire disparaître la différence. La différence est la même. C'est Dieu qui l'a conçue. Et je veux que ce soit bien compris quand nous disons qu'il y a une différence entre le rôle d'un homme et d'une femme. Nous ne disons nullement qu'il y a une différence dans leur capacité spirituelle ou leur besoin de connaître la parole de Dieu. Maintenant, alors que nous terminons, je veux dire quelque chose de très personnel. Au fil des ans, je remercie Dieu de l'énorme ministère que les femmes ont eu. Je veux que vous sachiez que cette Église ne serait pas à la place où elle se trouve maintenant, étant si bénie de Dieu, sans les femmes de cette Église. Je n'ai jamais vu une Église avec des femmes plus combatives, plus fidèles, plus exaltantes que dans cette Église. Je n'ai jamais vu une Église où les femmes ressentent plus de liberté, plus de joie, en faisant ce ministère. Et pourtant, de l'extérieur, nous sommes accusés d'être chauvins. Nous sommes accusés d'être étroits d'esprit, désuets, traditionnels. Nous sommes accusés d'appartenir à l'âge des dinosaures. Mais la vérité, et que je loue Dieu pour toutes ces années de bon ministère dans cette Église, où une grande priorité a été de laisser la femme apprendre. Je me réjouis que les femmes apprennent dans cette Église, et depuis les premiers jours. Le mardi matin, j'enseigne une étude biblique aux femmes, jusqu'à ce jour où nous avons chaque semaine la grâce de chaque femme, qui est un temps d'apprentissage le mercredi. Nous avons aussi un groupe en espagnol, et un autre chaque vendredi en coréen. La femme apprend, et c'est merveilleux. Cela renforce la dimension même de la vie de l'Église, et beaucoup d'entre vous peuvent être bénis par Dieu, et reconnaissant envers vous que votre femme ait grandi et appris des choses de la parole de Dieu qui peuvent enrichir sa vie et sa relation avec vous et votre famille. Je loue Dieu pour cela. Je ne crois pas, alors que la presse essaie de nous critiquer, et que les personnes de l'extérieur essaient aussi, que nous avons beaucoup de femmes démunies qui sont liées par un traditionnalisme qui ne correspond pas à la mentalité contemporaine, alors que je lis ceci et cela à notre sujet. Je crois que nos femmes, à Grace Community Church, ont expérimenté la vraie liberté d'être tout ce que Dieu veut qu'elles soient, dans le rôle que Dieu a conçu pour elles. Je remercie Dieu pour vous tous, et je remercie Dieu pour l'engagement de toute l'Église, qui met comme priorité que les femmes doivent apprendre. Donc Paul dit, « Laissez les femmes apprendre, et nous nous engageons de tout cœur pour qu'elles puissent remplir leur rôle. » Cela dit, dans ce verset 11, il le précise ensuite en disant, « En silence, avec toute soumission, et vous dites, « Attendez une minute, qu'est-ce que cela veut dire ?» Et je réponds, « Revenez dimanche prochain, et je vous dirai ce que cela signifie. Prions. » Père, nous ne pouvons pas exprimer avec des mots la joie de faire partie d'une communauté où se trouvent des hommes pieux et des femmes pieuses. Faire partie d'une église où la femme a appris et vécu la vérité de ta parole est une bénédiction. C'est une église où elles connaissent la liberté du Christ de faire partie d'une communauté où il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous savons que nous jouissons tous ensemble des bénédictions de la vie spirituelle en toi, là où nous jouissons tous de la richesse, de la précieuse parole. Je te remercie, Seigneur, pour les nombreuses années que j'ai consacrées aux femmes qui ont appris, qui ont lu les livres, écouté les cassettes et étudié par elles-mêmes, qui ont du mal à enseigner et qui, par conséquent, servent efficacement pour toi dans leur famille, dans d'autres domaines de la vie et de responsabilité, et même dans l'Église. Je te remercie, Père, pour cela. Je te remercie pour ces femmes pieuses qui comprennent à la fois la haute priorité de l'égalité spirituelle et la définition très claire du rôle que tu as conçu pour elles. Bénis-les, Seigneur, et honore-les pour cette fidélité. Je te remercie aussi, Seigneur, que tu aies été si clair dans ta parole, que ces choses sont si évidentes pour nous, en regardant ton livre saint. Aide-nous, Seigneur, à faire partie de la solution, pas du problème. Aide-nous à définir clairement la place de l'homme et la place de la femme pour que chacun puisse s'épanouir pleinement de l'intention divine. Et pouvons-nous savoir que toute perversion de ce type est une terrible tragédie, car elle modifie ton plan, viole ta volonté et apporte une grande détresse aux personnes qui, autrement, seraient pleinement satisfaites à la place de ta conception. Donne-nous la volonté, Seigneur, d'être ce que tu veux que nous soyons, et nous réjouir de ce privilège, d'accomplir le rôle que tu nous as donné, pour que ton royaume puisse aller de l'avant, afin que nous puissions être bénis, et que ton nom soit exalté. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.